Vous écoutez
RMC.
Il est 1h18 du matin en France. Il est 19h18 ici aux États-Unis. C'est pour ça que vous nous voyez là, plein d'énergie, dynamique, comme Kevin Diaz, Florent Gautreau et Daniel Riolo. C'est ça l'avantage des nuits de l'after. C'est comme pour nous, il fait encore jour. On va vous mettre un peu de peps toute la nuit. Et notamment tout à l'heure, Karine Galli, Walid Acherchour, Maxime Chalot qui seront là pour le match États-Unis, Paraguay, bien sûr. Le sport américain, c'est avant tout des statistiques, des datas. C'est pour ça que Kevin Diaz adore le baseball, adore le hockey, adore le foot américain.
Moi, je suis surtout NFL.
C'est surtout NFL.
Ouais. D'ailleurs, on est juste en face du camp d'entraînement des New York Giants. Tu l'as pas vu en passant ?
C'est ça, là ?
Bah oui, c'est ça. C'est le camp.
Et avant, ils jouaient dans le stade, là.
C'est pas avant, ils jouent dans le stade.
Ils jouent toujours dans le stade.
Ils partagent le stade avec les New York Jets, mais eux, ils ont leur camp d'entraînement, là, de l'autre côté de l'autoroute. Et tu peux aller voir, notamment, le camp d'entraînement, qui est un peu le stage de pré-saison, mais qui, aux États-Unis, dure 3-4 semaines. Et j'avais failli y aller une fois, mais il y avait eu des orages, du coup, entraînement annulé. Parce qu'ils blaguent pas, parce qu'ils ont des casques en métal. Donc, forcément. Ils blaguent pas, donc direct, ils rentrent. Mais c'est exceptionnel, hein. Là, il y a Odell Beckham Jr., la plus grosse star du football américain, qui est New York. Qui est de base drafté par les Giants, qui vient de revenir et qui vient de re-signer. Ça va être monstrueux, le camp d'entraînement. Malheureusement, on sera parti.
Voilà. Mathieu Rosenbaum est là, il est déjà venu dans l'after il y a quelques temps. Il a d'ailleurs noué une relation amicale intense avec Paulo Breitner, qui adore les stats.
On les a séparés d'ailleurs.
Sur la fameuse anomalie statistique qui n'en est pas une.
Mathieu est prof de maths à Polytechnique, ce qui déjà pose son nom quand même. Mathieu, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, ravi de vous retrouver ici.
Tu peux faire un camp d'été pour Daniel à Polytechnique sur les maths.
Sur les tables de multiplication.
C'est juste que sous pression, j'ai un peu craqué.
Il connaît déjà tout. C'est pas la peine.
Il a vérifié, c'est bon.
Faites des camps d'été pour les enfants ou pas à Polytechnique?
Oui, il y a des trucs. Alors pas les tout petits, mais
les ados.
Un peu summer camp en mode américain, justement. Il y a des choses comme ça qui commencent à se mettre en place.
Va vendre le summer camp maths à tes enfants.
Je suis pas sûr que ça va leur plaire, mais moi ça me plaît beaucoup. On va en parler après. Parce que moi j'ai pas un projet Mbappé, hein, moi. Ouais, j'ai un projet astrophysicien.
T'as plutôt un projet. Ah ouais, d'accord. Ouais, t'as raison. C'est Thomas Pesquet, quoi.
Parce que souvent on me dit, tu veux que tes joueurs ils soient tu veux que tes enfants ils soient footballeurs ou sportifs? Non. Parce qu'aujourd'hui, même si tu fais les meilleures études de sportif, donc de footballeur, bah, t'as très peu de chances d'être footballeur. Par contre, si tu fais les meilleures études de docteur, de pilote d'avion, d'astrophysicien, bah, tu seras astrophysicien si t'es bon. Et ça, c'est important.
Bravo Kevin.
C'est un peu un tapine, mais
un père de famille responsable.
Il y a moins d'aléas, c'est vrai.
Mathieu, on voulait profiter de ta présence pour essayer d'établir un parallèle entre ce qui se fait ici aux États-Unis et le foot. Alors, la stat dans le foot, évidemment, est en plein développement. On a fait 1000 émissions déjà là-dessus. Enfin, le foot, les sports américains, eux, limite, ils partent des stats, ce qui n'est pas encore le cas du foot.
Pour évaluer même les équipes avant que la compète démarre.
Voilà, donc ils sont dans une sorte d'excès, peut-être. Peut-être c'est trop, d'ailleurs.
La place des maths
dans le sport américain est incroyable.
Alors en fait, je sais pas si c'est trop, parce que les Américains ils sont pragmatiques. Donc si c'était trop, ils en feraient moins. Si ça coûtait de l'argent et que ça servait à rien, ils en feraient moins. Et en fait, c'est un sujet qui est assez intéressant à mon avis, de voir pourquoi est-ce qu'il y a ces différences, notamment entre le football et puis le monde des sports américains. Alors je pense qu'il y a une première chose, c'est de voir que aux États-Unis, le sport c'est quelque chose d'académique et d'universitaire. Vous êtes un bon sportif, vous allez à l'université parce que vous êtes un bon sportif, vous le savez tous. Et on dit souvent, le prof le plus payé de l'université, c'est le coach de l'équipe de basket. Donc c'est vraiment quelque chose d'universitaire et d'académique. Il y a une notion de science et de matière académique qui est le sport aux États-Unis, de sport science, qu'il y a très peu en France. Il y a un petit peu plus en Grande-Bretagne. Mais voilà, premier point, c'est que c'est quelque chose d'académique, donc une notion de recherche pour la science, pour le sport, ben, un Américain, c'est très très normal pour lui. Ça, c'est le premier point, à mon avis. Il y a un second point qui est dans la nature des sports d'intérêt. Vous êtes aux États-Unis, c'est baseball, football américain, basketball, hockey, qui sont en fait des sports où il y a beaucoup plus de répétitions que dans le football.
Oui, c'est dans la nature de ces sports, en fait.
Il y a beaucoup plus de séquences répétitives. Donc, si tu fais des maths, de la data, c'est plus facile d'apprendre, parce qu'en fait, tes séquences se répètent beaucoup. Donc, il y a ce côté très répétitif, beaucoup plus statique, en fait, que le football, qui est un sport extrêmement dynamique. Donc, c'est plus facile à modéliser, plus facile de faire pareil à data. Et c'est des sports où il y a des plus gros écarts, et les scores sont plus grands. En football,
c'est le principe du fait que le foot est un des rares sports à points rares, contre tous les sports à points fréquents.
Exactement. Et ça joue beaucoup parce que quand tu as un sport à points rares, ben un point fait la différence. Alors, vous allez me dire, on va faire l'exemple des Knicks contre les Spurs. Évidemment, il y a toujours des situations comme ça. Mais en fait, il y a quand même beaucoup moins d'aléas. C'est beaucoup plus, quand un match de basket, c'est en général entre deux équipes, c'est beaucoup plus prévisible qu'un match de foot.
On me disait, moi, quand on a appris à lire une fiche de stats en basket, on me disait, tu peux expliquer un match en décryptant la fiche de stats en partie. Alors qu'au foot, on regardait les momentum de la mi-temps tout à l'heure, Canada contre Bosnie-Herzégovine. T'avais aucun momentum pour la Bosnie, mais la Bosnie menait 1-0.
Bah ça on pourra en parler. On a mené des travaux de recherche là-dessus sur comment justement comprendre qui est ce qui était important les actions offensives, parce que comme tu le dis tout à fait Florence, c'est dur de comprendre juste à travers des stats bruts un match de foot. Les stats bruts c'est très difficile. Il y a vraiment besoin d'un effort de modélisation et de compréhension. C'est pas juste les chiffres qui vont t'expliquer un match de football.
Et sur ce point précis, ces derniers temps quand même, le foot ayant évolué. Comment dire, sur des modèles qui se ressemblent énormément dans la façon de jouer, je trouve que quand tu lis une feuille de stade à la fin des matchs, de plus en plus, on arrive à y voir, je sais pas si c'est une vérité ou pas mal de vérités, quand tu vois le nombre d'occasions, la possession, les sprints à haute intensité. Il faudrait faire le test, ça pourrait être rigolo. Tu ne mets pas le score, tu lis la feuille de stats et tu dis qui a gagné.
Oui, mais regarde, sur l'XG, on a eu l'exemple récent.
L'XG, voilà.
Oui, mais de l'inverse, c'est d'un score.
Oui, d'accord, mais d'après toi, si on prend une feuille de stats, on en prend 10, on cache le score et on lit la feuille de stats, d'après toi, on va se tromper combien de fois sur l'issue.
Il y a un truc qui
Moi, je dis pas plus de 2. Je pense qu'on sera à pas plus de 2 sur 10.
Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas sûr.
Toi, le roi des stats, tu dis pas qu'à 8 sur 10, on va trouver qui a gagné?
Non, je suis pas sûr. Mais 8 sur 10, ça me paraît trop. Par contre,
j'aimerais bien qu'on le fasse.
Il y a un classement qui est intéressant à voir, notamment ils le font tout le temps en première ligue. C'est le classement des XG à la fin de l'année par rapport au classement réel des résultats. Et souvent, il y a une équipe qui va surperformer, qui est en XG, qui est 12e et qui finalement finit 5e, parce qu'ils ont eu un attaquant qui a marché sur l'eau, qui était dans la Wonder Season et qui marquait tout ce qui touchait. Mais normalement, c'est quand même plutôt équilibré. Après, t'as des équipes comme Manchester City qui ont tellement le ballon, qui ont tellement d'occasions, qui sont souvent très très haut. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui pour moi, même nous à notre niveau, au National 2, au niveau national amateur, on utilise les stats. Il y a Huddle qui, pour ceux qui connaissent Huddle, qui est une grande entreprise américaine qui a racheté en gros tous les concurrents sur les 20 dernières années et qui aujourd'hui fait du Y-Scout, fait de la data, fait de la proposition de GPS, qui sont aussi bien sûr les courses à haute intensité, etc. Donc ils regroupent un peu tous les domaines d'activité. Mais aujourd'hui, ce qui est très important de savoir, puisque Gilbert, toi qui n'es pas trop fan de data, la data, les statistiques ne sont là que pour réduire la marge d'erreur. Ils sont pas là pour te faire gagner un match, pour te faire choisir un joueur. Ils sont là pour t'aider à choisir
un joueur. Énormément de scouts choisissent sans data.
Ils sont là à t'aider pour choisir un joueur, pour essayer de minimiser la marge d'erreur. Mais personne ne pense que uniquement avec des statistiques, si le mec il a des bonnes statistiques, mais tu lui parles pas, tu sais pas un peu quel est son background, tu sais pas un peu quelle est son éducation, et qu'il arrive dans ton vestiaire et qu'en fait le mec il est capable de parler avec personne, parce qu'en fait
il y a des coachs qui font ça. Comoli en tant que dirigeant
rencontre des gens.
Plus du tout.
Bien sûr qu'il rencontre les gens.
En fait, je pense que c'est Kevin qui a dit le truc le plus important pour comprendre quand est-ce qu'on peut utiliser les stats souvent ou pas. Donc déjà, c'est en général un outil d'aide à la décision. Mais en fait, on parle de stats et de modèles de stats. Et en fait, pour que ce que vous apprenez dans les stats se réalise, il faut plusieurs répétitions. Il faut beaucoup de répétitions. Pourquoi c'est dur dans le foot? Parce que déjà, vous n'avez pas tant de matchs que ça dans la saison par rapport à une saison NBA. Et puis parce qu'en foot, les staffs changent tout le temps, etc. Donc même si on commence à comprendre quelque chose sur les joueurs, sur les staffs, etc., la saison d'après, les joueurs changent. Et donc on va dire, les stats ne sont pas très utiles. Alors que vous prenez un sport américain, équipe de basket, équipe de football américain, les équipes changent beaucoup moins d'une année sur l'autre.
Grâce à la draft.
Et voilà, les coachs, et on va y venir parce que ça c'est un point aussi qui est très important, les coachs changent beaucoup moins. Donc, et vous avez plus de matchs, donc vous apprenez mieux. Et il y a un point qui est un petit peu étonnant, mais qui, à mon avis, est important. Tu parlais de la draft, je pense qu'il y a un truc qui change les donnes, c'est le fait qu'ici, c'était ligue fermée. Pourquoi je pense que ça change la donne? Parce que le fait d'être une ligue fermée, ça veut dire que, vous le savez très bien, les clubs, en vrai, c'est pas tant des concurrents que ça. Ils sont un peu dans le même bateau. Parce que le gâteau, il est partagé entre eux, quoi qu'il arrive. Ce qui fait que très tôt, les sports américains, ils se sont partagés la data. Ils se sont mis ensemble pour dire comment est-ce qu'on fait pour recueillir la data, les GPS, les tracking, etc. Ils ont bossé ensemble. Le football, attention, j'ai mes data, il faut surtout pas, je suis le club A, je veux surtout pas que le club B ait accès à mes data. J'ai cette peur-là. Et c'est pour ça qu'on a pris beaucoup de retard là-dessus. Donc et ça c'est un truc important parce que les stats c'est de la répétition et pour voir les effets des stats il faut accepter d'attendre la répétition.
Alors permets-moi une remarque en tant que prof de maths. Moi il y a un truc qui me choque toujours avec les datas. On parle de mathématiques, de stats, alors que le foot pour moi c'est avant tout de la géométrie. C'est-à-dire qu'en fait sur le terrain les circuits préférentiels, le positionnement des joueurs, le jeu en triangle.
T'as raison, d'ailleurs, il y a plein de mots qui le disent, les demi-espaces.
Oui,
les...
Et en fait, c'est marrant parce que j'ai jamais entendu personne appréhender le foot par l'angle de la géométrie en expliquant aux joueurs avec schéma, tiens, bah voilà, regarde, pourtant, là, toi t'es positionné là, toi t'es là, toi t'es là.
Pourtant, le basket a mis en place notamment le triangle avec Phil Jackson au niveau des, au moment où il était chez les Bulls.
Alors moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Gilbert. Le premier point, c'est si on regarde les sports américains, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un bon match de basket si tu n'as pas compris la géométrie des écrans, etc. Tu peux pas. Donc ils ont appris ça parce que c'était absolument nécessaire. Mais même du côté scientifique, il y a un truc sur lequel j'essaie toujours un peu de me battre avec les gens des staffs, etc. C'est la data. La data, ça fait pas tout. C'est-à-dire que, et ça, c'est tous les clubs, mais donc c'est dans toutes les industries. Les gens ont toujours l'impression d'avoir un énorme trésor de guerre parce qu'ils ont plein de data, ils recueillent de la data, ils recueillent de la data. Ce qui est très important aussi, c'est la notion de modélisation de la data et comment tu fais parler la data. En particulier, comment tu vas mettre la data pour, par exemple, faire des interprétations géométriques comme celui-là. Mmh. Je vous donne un exemple, si vous me donnez 30 secondes, sur l'un des derniers travaux qu'on a fait, qu'on a présenté ici. Je vais citer, c'est avec Ali Bawang, qui est un étudiant de Polytechnique, et puis Mathieu Lacombe, qui est quelqu'un du PSG. En fait, ce qu'on avait regardé, c'est de dire, la question que vous nous avez posée, c'était staff du PSG. En fait, comment est-ce qu'on fait pour créditer un joueur sur les actions dangereuses? Comment je fais pour savoir qui sont les joueurs importants qui vont générer des actions dangereuses?
J'aurais tendance à dire t'écoutes l'after.
Les fameuses passes clés.
C'est la première chose que j'ai dit. Bah, alors, j'ai écouté hier soir.
Les fameuses passes clés.
Alors voilà, donc le premier truc, je vais prendre le buteur. Ça, on est tous d'accord, ça n'a pas de sens. Alors je vais prendre le passeur. Oui, parfois non. Alors je vais prendre l'avant-dernière passe. J'écoute l'after, vous parlez souvent d'avant-dernière passe. Et puis parfois on se dit, ah mais non, mais regarde là, le dégagement de Manuel Neuer qui a vu, c'est lui qui compte. Donc ce qu'on a mis en place, c'est une méthodologie statistique qui se base sur un modèle mathématique qui est issu de la finance et des tremblements de terre. Donc en fait, tu parlais de géométrie. En fait, on va chercher des choses comme ça, qui est capable de vous dire, sur une saison, en fait, qui sont vraiment les joueurs importants pour le déclenchement d'actions dangereuses. Pourquoi tremblement de terre, ça fait bizarre? C'est en fait parce que c'est des modèles qui sont capables de dire, de comprendre des phénomènes d'excitation, c'est-à-dire quelque chose va déclencher quelque chose, qui va déclencher quelque chose, qui va déclencher quelque chose. Donc,
l'origine du séisme, quoi.
Exactement.
Par exemple, une des origines des séismes dans une équipe, et ça va parler à tout le monde, c'est quelle est l'action, qui est le joueur qui fait courir l'adversaire vers son but. C'est-à-dire qui va casser la ligne qui fait que le bloc adverse est tellement déséquilibré qu'ils sont dans l'urgence pour courir vers leur but.
Sur le PSG, vous êtes arrivé à Vitinha. C'est l'origine du séisme.
Justement, j'y viens. En fait, très souvent, ces outils-là, finalement, quand vous connaissez très très bien une équipe, vous dites, ouais, en fait, c'est un outil qui il me dit quelque chose que je sais. Parce que si vous suivez à fond l'équipe, vous savez que dans cette équipe, oui, c'est ce joueur-là qui compte. Moi, j'étais supporter de Rennes, toi, Florent, tu connais bien. Oui, je sais, Bourigeaud, c'est lui qui était tout le temps important sur les actions. Donc, on a fait ça sur l'ensemble de la Ligue 1, sur plusieurs saisons. Et ça, c'était une année où il y avait Verratti. Donc, c'était assez étonnant. C'était une année où il y avait Verratti à Paris. Donc, on avait regardé le cas Verratti. Parce qu'on s'était demandé, est-ce que Verratti. Et donc, on voyait que si on prenait des mesures un peu basiques, Verratti n'intervenait jamais dans la mesure de sur le côté dangereux. C'est-à-dire, Verratti ne générait jamais rien de dangereux au sens classique, le dernier passeur, etc.
L'avant-dernière passe.
Mais au sens de la métrique qu'on avait regardée, qui était, comme tu dis, l'origine du séisme, en fait, Verratti était très très haut dans le classement des joueurs de Ligue 1.
Sur l'échelle de Richter.
Voilà, sur l'échelle de Daniel, il était très très haut. Et il n'y avait aucun a priori. On voit qu'on a regardé ça, on était même un peu étonnés. Mais en fait, vous voyez, Verratti sortait
mais
très fort.
Ce que tu nous dis, c'est que...
Le fan club de Verratti
applaudit. Ça applaudit là-bas.
Depuis que Vitinha est là, on a franchi quand même.
Il faut un petit peu au-dessus.
Il y a les séismes, Verratti, c'était juste ça.
Il y a l'échelle de Richter, ça va de 1 à 10.
Tu sais, c'est le loup qui souffle sur la maison de paille, tu vois. Mais après, on est monté en gamme quand même.
En fait, il y a un truc que tu nous dis, c'est que c'est pas forcément dingo en termes d'infos sur des équipes qu'on connaît très bien. Mais en revanche, évidemment, c'est un outil incroyable pour les équipes quand tu ne connais pas parfaitement tes adversaires dans les divisions inférieures.
Oui, en fait, c'est un article qui a été publié dans une revue scientifique. Vous pouvez le trouver sur
France
Internet.
France Football.
Il y a vraiment des revues qui sont dédiées à ça. Tu vois, des journaux scientifiques.
C'est dans Nature.
Dédiés au sport. On aurait bien aimé, mais
Science.
Mais Verratti pour Nature, c'était pas assez. Ouais. Donc on a fait en fait le classement de tous les joueurs de Ligue 1 de la saison qu'on avait regardé, sur tous ceux qui étaient plus avant, et on sortait des gens, Bourigeaud sortait haut, des gens comme ça, et puis même des gens comme TJ Savanier à l'époque, je me souviens, tout le monde sait TJ Savanier, oui, il est important et bon. Mais sur des stats de base, à part le nombre de TJ Savanier, c'est pas évident de le faire ressortir. Donc très souvent, ce qui se passe, c'est que ça met du quantitatif sur les intuitions. Et ça, c'est important. Je prends un exemple dans votre émission de l'autre fois où on aurait pu le faire. C'est le dernier match d'équipe de France. Je sais plus, il y a l'un d'entre vous qui dit ah, Tchouaméni, ouais, il a fait vraiment un bon match, Tchouaméni. Et quelqu'un d'autre a dit ah, ben non, mais moi, en fait, j'ai vu que Rabiot, en fait, au milieu. Bah, c'est typiquement, chacun a un peu son intuition, chacun a à peu près raison. Voilà. Parce que tout le monde, que c'est ça. C'est mettre du quantitatif. Mais,
c'est pas que mettre du quantitatif, pour en avoir beaucoup parlé avec mes coachs sur les trois dernières saisons, c'est aussi mettre du rationnel. C'est-à-dire que les entraîneurs aujourd'hui et les staffs veulent rationaliser la performance.
Non, mais c'est, non, alors, je peux reformuler, Kevin, ils veulent se rassurer.
Oui, mais exactement. Mais tu sais,
ils veulent se rassurer. Oui,
être rassuré, quand t'as un management de 25 individus ou de 30 individus, il faut aussi pouvoir expliquer aux joueurs. Moi, à mon tout petit niveau, j'ai été entraîneur adjoint en charge des coups de pied arrêtés. C'est-à-dire que ce que j'ai très vite compris pour avoir travaillé avec Marc Brice, donc Marc Brice, le sélectionneur du Cameroun, qui était mon entraîneur à OFC Eindhoven, qui était excellent et qui est reconnu pour ça en Belgique, avec d'être un très bon stratège sur les coups de pied arrêtés. Je crois que c'est pareil pour Pierre Sage, par exemple. C'est-à-dire que Marc Brice te donnait des combinaisons un peu à l'image de ce qui se fait en NBA avec des blocs. Et donc, tu avais beaucoup de séances d'entraînement où tu devais faire ça. Mais en fait, c'est, moi, quand je l'explique aux joueurs, quand je l'explique au staff, c'est un petit peu le syndrome de la guerre des boutons. C'est-à-dire que toi, t'étais dans ton camp, t'avais le même maillot que tes gars, et tu savais qu'on va vous préparer un truc, les gars. Et vous savez pas ce qu'on va vous préparer, mais on va tous croire au même projet collectif sur ce coup de pied arrêté, sur ce corner. Nous, on sait ce qu'on va faire, et vous savez pas. Peut-être qu'on va le rater, mais on est tous convaincus qu'on va le réussir. Et c'est avec le travail, avec les images, avec aussi tout ce qui est data, où est-ce que ça marche, où est-ce que cette équipe-là, elle est fragile, est-ce qu'elle est en zone, est-ce qu'elle est en individuel. Donc tu leur donnes un maximum d'informations qui, avec l'entraînement, les rassurent et leur permet d'avoir confiance sur la stratégie. Parce qu'aujourd'hui, les coups de pied arrêtés, c'est un peu ce qui se passe dans le sport américain, notamment en NFL, où c'est des séquençages où tout le monde connaît un playbook qui est gros comme un pavé énorme, où il y a 250 tactiques avec et sans le ballon, et tout le monde doit tout connaître. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le sport de haut niveau, et c'est pour ça que les data et les statistiques sont aussi là à aider à croire à un projet pour rationaliser le tout.
C'est de l'aide à la décision, c'est du support pour les coachs, les entraîneurs. Les joueurs en sont assez friands. En fait, ils aiment bien avoir des datas. Mais évidemment, je suis le premier à ne pas vouloir un monde où il n'y aurait que la data et la data déciderait tout, sinon on va tous arrêter de regarder le foot.